Salut, c'est La Poulie, en direct, comme tous les lundis, sur Radio Primitive.
Votre revue de presse, mais pas que. Alors, au sommaire, on prendra des nouvelles de Serge, mutilé à Sainte-Soline.
Ok. Moi, je vais vous parler d'entreprise française qui deal un peu avec la Russie, voilà, en introduction. Et puis après... d'un procès qui va avoir lieu aux alentours de Lyon pour un murage, enfin des gens qui ont muré un local et voilà, trois ans après c'est le procès.
Ok, on fera un petit tour de la presse locale, l'Union, l'Hebdo du Vendredi, etc. Et on a reçu le nouveau CQFD, donc on pourra le feuilleter aussi.
Ça marche. Et voilà.
Allô ?
Qu'est-ce que cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Eh ben, c'est l'agenda. Déjà vendredi 13 octobre, il y aura la manif. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier. La manif intersyndicale pour la défense des droits publics, des services publics. J'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être à 10h devant la maison des syndicats, j'imagine. Voilà. Et pour l'abrogation de la loi sur les retraites, évidemment.
Et oui.
Et moi, j'ai pas grand-chose d'autre. Tu voulais nous parler de la SDFO, je
crois. Ah oui, mais j'ai pas pris les dates. En tout cas, ce soir, à 18h, à la mairie, il y a la soirée d'introduction aux semaines d'information sur la santé mentale. Voilà, donc il y aura le... Thierry Delcourt qui viendra faire une allocution à voilà, soirée débat à la mairie dans la grande salle. Voilà.
Et demain, il y a le vernissage. Alors, demain commence la semaine de la folie ordinaire.
C'est ça, tout à
demain,
fait.
Demain, à 18h, à la maison de la vie associative, il y a le vernissage de l'exposition qui a lieu tous les ans là-bas. Donc, ça, c'est à 18h à la MVA. Donc, c'est 122 bis rue du Barbâtre.
Il y a une soirée débat le 18 octobre, c'est un mercredi si je ne m'abuse. Enfin, je sais pas, en tout cas le 18 octobre à la maison commune du Chemin Vert, c'est place du 11 novembre. C'est en octobre, mais place du 11 novembre. Et ce sera, donc il y a une première partie culturello ateliesque, donc présentation d'ateliers, etc. Et puis une seconde partie débat autour d'un livre qui s'appelle Pour une psychiatrie indisciplinée, un livre de Olivier. Tu l'as
Oui, oui, c'est Olivier Brisson.
Olivier Brisson, voilà. Et il sera là en personne pour venir parler avec nous de son livre ce soir-là.
Ok, et ça voilà. C'est au...
C'est à la maison commune du Chemin Vert, le 18 octobre.
Le 18 octobre, à partir de 17h45.
Voilà.
Et ben, je crois qu'on a fait un peu le tour.
Mais... Voilà, et oui.
Bon, il y a d'autres choses. Hein. Je suis sur la page Facebook de la... Vous tapez Semaine de la Folie Ordinaire, Reims, et il y a toute la prog et une jolie affiche.
Ok, bon bah voilà, un bien bel agenda. Et voilà. Et moi, je vais vous parler maintenant d'une entreprise. Alors, on en avait déjà parlé, en fait. C'est pour ça que j'ai revu son nom récemment là, dans des articles. Et donc, une entreprise dont on avait déjà parlé parce qu'elle va consommer de l'eau, beaucoup d'eau, en Isère, près de Grenoble. Donc voilà, je vous lis un petit morceau d'un article qu'on trouve sur lepostillon.org. Postillon, c'est un journal isérois. Donc voilà. Pour fabriquer une puce électronique, il faut graver dans le silicium des micro-sillons et déposer une alternance de couches de matériaux conducteurs et isolants. Différents processus s'enchaînent, photolithographie, dépôt sous vide, graffure physique ou chimique, implantation dans le silicium d'atomes d'autres substances comme le phosphore, l'arsenic, le bore ou l'indium. Ces sillons sont ensuite remplis de métaux ou de métaux isolants. Tout ça ne se fait pas manuellement, mais grâce à des machines qui posent des couches de produits chimiques qui les creusent avec d'autres produits chimiques et qui ont besoin, entre chaque passage, d'énormément d'eau pour nettoyer et rincer tout ça. Ces énormes machines peuvent coûter jusqu'à 70 millions d'euros la pièce, soit autant qu'un Airbus. Les 2,3 milliards d'euros annoncés par Macron cet été n'iront donc pas dans la poche des salariés, mais dans celle des fabricants de ces gigamachines et celle des actionnaires de STMicro, parce que l'entreprise dont on parle, c'est STMicroelectronics. Chaque unité de production de STMicroelectronics Kroll possède un centre technique, où se trouve notamment une installation de production de cette eau ultra pure. Ici, des pompes haute pression obligent l'eau à passer d'abord dans des filtres à ions, puis dans les filtres de plus en plus fins, mesurés en microns. Elle subit une autre étape de déionisation en traversant des résines qui piègent les ions ou par électrodéionisation. Elle est ensuite exposée à des UV pour tuer tout ce qui pourrait être vivant, puis passer dans un charbon actif pour éliminer les COV, composés organiques volatiles, et le peu de chlore que contient cette eau naturellement extra pure. Donc voilà, l'eau extra pure, c'est ce dont ils ont besoin pour nettoyer leur saloperie. Alors, peut-on boire cette eau ultra pure ? Elle n'est pas en soi un poison, mais elle ne pourrait pas être bue de manière continue. C'est la faute à l'osmose, directe cette fois. La concentration des sels de deux liquides séparés par une membrane, comme celle de notre corps, tend à s'équilibrer. Donc l'eau ultra pure pomperait les sels de notre corps, entraînant une bonne chiasse à moyen terme et une mort certaine à long terme. En la rendant ultra pure, ST ne rend pas l'eau meilleure, mais impropre à la consommation. On compte sur l'Isère pour vite diluer les 10 mm cubes qui sont ainsi déversés par jour d'ici en 2021. D'ici 2024, ce sera deux fois plus. Ça fait donc ça, c'est les 10 mm cubes, c'est les effluents, donc ce qui est rejeté une fois que l'eau ultra pure a servi à nettoyer tous les résidus de la fabrication. Et voilà, donc ça fait quand même 50 kg de matière en suspension. 150 kg de demande chimique d'oxygène, 15 kg de phosphore, 120 kg d'azote ammoniacal, 70 kg de fluorure, 250 g de cuivre, 500 g d'aluminium et 150 kg d'azote par jour. Soit quand même par an, 5465 kg de phosphore et 43 800 kg d'azote ammoniacal ou 182 kg d'aluminium. Donc voilà, tout ça c'est ce qui est rejeté dans l'Isère. Effectivement, les effluents sont tous rejetés dans l'Isère par un seul tuyau caché à l'aplomb de l'usine. Ils sortent directement dans l'eau, impossible de voir leur couleur. ST a choisi Kroll non seulement pour l'inestimable ressource d'eau pure qu'offre le bassin grenoblois, mais aussi pour l'extraordinaire évacuation que lui offre une rivière comme l'Isère. Au passage, la rivière est un peu réchauffée par ses rejets à environ 25 ou 27 degrés. On compte sur l'Isère pour vite diluer les 10 mm cubes qui sont déversés par jour. Voilà, donc ça c'était ce qu'on voyait il y a quelques... Quand on a parlé la première fois de STMicroelectronics, donc il y a des mobilisations pour éviter en fait un agrandissement de leur usine. Donc ils fabriquent des puces électroniques. Et voilà. Et donc là récemment, un article de Blast qu'on trouve sur blast-info.fr, un article du 3 octobre. Voilà. Donc là, on parle d'entreprises qui vendent des biens à la Russie. Donc voilà. L'Indrel affiche volontiers son statut de numéro 2 mondial de l'imagerie thermique. Détenu à part égale par Safran et Thales, deux conglomérats dans la sphère d'influence de l'État qui les détient en partie, l'entreprise emploie quelques 1000 salariés, principalement à son siège de Verey-Voroise, au cœur de la Silicon Valley qui s'est développée autour de Grenoble, en Isère. Ses détecteurs infrarouges et ses caméras thermiques sont particulièrement prisés, selon les documents obtenus par Blast. Des composants signés Lindred ont été livrés à la Russie à 9 reprises entre le 2 mars 2022 et le 24 avril 2023, soit bien après le début de la guerre en Ukraine, pour un total de 2 458 568 dollars. Lindred n'est pas le seul fabricant isérois dont les composants alimentent les armes et matériels russes engagés sur le front ukrainien. Poids lourd du secteur des puces électroniques, STMicroelectronics dispose d'un siège en Suisse et régi par le droit hollandais et compte à son capital des fonds du ministère italien de l'économie, de la Banque pour l'investissement française et même la Banque centrale de Norvège. Mais c'est bien à Kroll, à côté de Grenoble, que se situe le berceau de son pôle recherche et développement, comptant le site du Rousset, près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, pas loin de 9000 employés travaillent en France pour la multinationale. Le STM32F, donc c'est une puce qu'ils ont vendu, a été trouvé dans toute une série de drones utilisés par les forces armées russes, notamment à des drones de reconnaissance, mais aussi des drones kamikazes tels que le Lancet 3 et le Cube Bla, qui ont été utilisés pour frapper des cibles en Ukraine. Les commandes de vol, navigation, localisation ou encore contrôle de l'alimentation, les compétences du petit composant sont indispensables pour un prix défiant toute concurrence. Environ 10 dollars l'unité, voire 6,74 dollars à partir de 500 pièces achetées sur la boutique en ligne de ST Micro Electronics. Gary Somerville, donc ça c'est un expert qui parle. L'exportateur, disons en Europe ou en Amérique du Nord, expédie probablement ses produits en masse, peut-être directement à Hong Kong par exemple, en supposant qu'ils ne sont pas destinés à une utilisation finale militaire. Mais un certain nombre de ces entreprises de Hong Kong essaieront ensuite de les expédier et de les transmettre également à la Russie. Certaines de ces sociétés sont en fait dirigées par des ressortissants russes basés à Hong Kong ou en Chine, ou bien par des ressortissants chinois qui ont des relations commerciales historiques avec la Russie. Donc en fait, voilà, pour contourner les interdictions de vente, ils vendent à des pays qui ne sont pas eux en guerre et ça transite par d'autres circuits, quoi. Si le Kremlin peut compter autant sur ses missiles de croisière, c'est en grande partie grâce à leur système de navigation par satellite, le SN-99, fabriqué par ST Micro Electronics. Voilà. Donc tout ça, c'est un article que vous pouvez trouver sur blast-info.fr. Voilà, on va s'écouter un petit peu de musique. C'est Green Blue Worry, Green Blue, alors le groupe, et le titre Worry dans la poulie.
C'était chouette. Eh ben, on fait quoi? Je voulais vous donner des nouvelles de Serge, qui a été mutilé à la manif de Sainte-Soline. C'était au mois de mai, il me semble. Et donc voilà, c'est le communiqué de ses camarades qui nous donne ces nouvelles. Donc c'est le communiqué numéro 6, je vous en lis quelques extraits. Voilà, courage à lui. Alors Serge a été brièvement blessé le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. 6 mois après les faits, voici où nous en sommes. Passé le soulagement, après le temps de l'incertitude, du réveil, de nouveaux champs d'incertitude sont apparus. Sur ce que notre camarade allait pouvoir récupérer, comment, en combien de temps, etc. Nous avons eu la joie de le retrouver, lui et ses souvenirs, ses convictions et sa détermination. Pourtant, chaque jour, l'étendue des dommages s'est révélée à petit bruit. Le choc cérébral qui a entraîné le retrait d'une partie de sa boîte crânienne pour maîtriser un œdème qui lui aurait été fatal a laissé des traces importantes. Le traumatisme crânien a causé une paralysie faciale et des difficultés de mobilité des membres, des troubles importants de la vision qui fragilisent sa capacité à se déplacer seul sans risquer l'accident, des difficultés de concentration et une fatigue chronique. La grenade qui l'a percuté a détruit une oreille interne, mettant à mal son équilibre et provoquant une surdité définitive de l'oreille impactée, ainsi qu'une baisse de vision. Nous ne sommes pas en mesure de dresser un constat définitif. Il a fait des progrès notables grâce à la rééducation et nous espérons qu'il parviendra à récupérer ce qui n'est pas définitivement perdu. Voilà, je vous lis un autre extrait. Parce que nous pensons qu'il est primordial de prendre collectivement en charge la répression qui s'abat sur les mouvements révolutionnaires, nous proposerons bientôt un retour sur notre expérience propre autour de la blessure de Serge. Nous y présenterons les différentes questions logistiques et politiques auxquelles nous avons été confrontés et comment nous avons su ou non y répondre. La solidarité doit se poursuivre pour que les blessés et enfermés de nos luttes se révèlent de la meilleure des manières et pour que nos morts ne se soient pas fait tuer pour rien. Les capitalistes n'ont qu'un objectif, faire du fric en nous abîmant, en nous détruisant et en détruisant tout ce qui est viable sur ce globe. Voilà, ça c'était, je vous ai lu différents extraits du communiqué numéro 6 des camarades de Serge. Et ça vous le retrouvez sur leur site. Sur leur site, c'est lescamaradesdus.noblogs.org. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Une petite plongée dans la presse locale ou mais, pas, finalement
dans la presse locale, ouais. Alors, petite plongée dans la presse locale. Bah déjà, l'hebdo du vendredi, cette semaine, un peu surpris. Alors, c'est un dossier spécial emploi et formation. Alors, le journal est épais cette semaine. Et donc, il y a tout un truc. Et on y apprend notamment que... qu'il y a une filière nucléaire qui s'ouvre à Reims, à l'IUT de Reims. Alors c'est ça fait suite en fait à la relance du programme nucléaire de Macron. Et donc pour augmenter la capacité électrique et passer de 6 à 14 réacteurs. Voilà, donc c'est tout l'article est 100% greenwashing parce que le nucléaire c'est vert selon le lobby hein, qui est, je sais pas, on nous en a parlé j'ai oublié de vous le lire, un article sur comment le lobby nucléaire avait fait passer justement le nucléaire dans les énergies vertes. Donc voilà, là on est à fond là-dedans dans tout l'article et pour passer de 6 à 14 réacteurs d'ici 2035 et créer 10 000 emplois par an pendant 10 ans. Donc, du coup, en fait, il y a une partie de l'université et de l'IUT, ça va se passer à l'IUT, ils vont avoir une filière spéciale génie civil et construction durable en lien avec le nucléaire. C'est assez délicieux. Et donc voilà, il y a une inauguration qui est prévue, j'ai lu ça, le 14 novembre prochain à l'IUT. On vous donnera peut-être des nouvelles. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de l'hebdo du vendredi. Hein. Sinon, c'était pas hyper intéressant comme d'hab. Et puis, ça, on y passera après. Et ben l'Union. Alors j'ai eu un peu moins de temps cette semaine. Et qu'est-ce que je vous ai trouvé ? Si, un article lundi dernier, le 2 octobre, sur les auto-entrepreneurs. On y apprenait quand même un truc assez intéressant, c'était le revenu moyen des auto-entrepreneurs, qui est le nouveau statut qui permet flexibilité maximale. Et en fait, le revenu moyen, il est de 630 euros, ce qui est à peine au-dessus du RSA, quoi. Donc voilà, vive les entrepreneurs. Et quoi d'autre ? Nouvelle brigade de gendarmerie qu'on fait suite à l'annonce du dimanche précédent. Alors, elle sera à Joncherie-sur-Vesle et il y en aura une autre à Chalon. Voilà, on est bien heureux. Il y avait quoi ? Une manif. Ils annonçaient une manif anti-Rockwool. Vous savez, c'est les isolants, laine de verre, etc. J'ai pas eu de news. C'était à Soissons. Quoi d'autre ? Une otarie. Ah si, ça c'était rigolo. C'est aux États-Unis. Lors des inondations causées par les pluies torrentielles à New York, une otarie s'est échappée du zoo de la ville. Ses trompes d'eau ont fait déborder la piscine où elle demeurait. Elle s'appelle Sally. Si bien qu'elle a pu s'en sortir et en profiter pour aller visiter elle-même le jardin zoologique de New York. Bon, elle a pas réussi à aller plus loin, la pauvre. Pas à rejoindre. Tant pis. Et après ça s'arrête là. Je suis un peu, j'ai pas eu trop de pépites dans les derniers l'Union. Je sais même pas s'ils ont parlé du point essentiel, c'est la destruction du pont de Gaulle. Hein. C'est ça, ça faisait quand même un papier par jour. Je sais pas si ils en ont parlé.
Bon, en tout cas, de toute façon, c'est quand même top l'actualité internationale de l'Union, quand même.
Hein. Oui, résumé, il y a beaucoup la semaine dernière, c'était les alligators qui s'étaient sauvés en Chine, je crois. Ils ont toute une rubrique animalière qui est super sympa.
Ok, pour finir, je vais vous parler un peu de... Je vais vous lire un article de Rebellion, enfin, en tout cas, des extraits. Voilà, ça s'appelle « Permis de construire ». Sous les parpaings, c'était les FAF, pas la plage. Alors voilà, le 26 octobre prochain, 5 antifascistes lyonnais et lyonnaises seront jugés pour une affaire qui pourrait prêter à rire si elle n'avait pas été une préoccupation aussi sérieuse de la police et des juges locaux. Le murage du bastion social. Organisation dissoute par le gouvernement en 2019, connue pour être un nid de nationalistes révolutionnaires notables, cela s'illustrant par leurs habituels collages, tractages et passages à tabac racistes, homophobes, transphobes, islamophobes et antisémites. Mais c'est sans compter le déchaînement répressif qui a suivi 7 mois plus tard. Le 13 novembre 2018 auront lieu les perquisitions simultanées de 6 domiciles de nos supposés et eux bâtisseurs et bâtisseuses de l'extrême gauche. Cassage de portes en règle, braquage de militants à 6h du matin par le PSIG ou baqueux cagoulé, saisie des ordinateurs, téléphones et disques durs, vol d'une centaine de livres en tout, de beaucoup de matériel militant, une centaine d'affiches, des milliers de stickers et environ 600 badges, 4 drapeaux, et des vêtements à connotation politique dénichés au fond des placards, livres, t-shirts, matériel seront ordonnés à la destruction. S'en suivra une garde à vue de 48 heures avec à la clé une présentation au juge d'instruction. Les six personnes seront finalement mises en examen et pendant les 2 ans de la durée de l'instruction, elles seront placées sous contrôle judiciaire avec interdiction de se voir et limitation de leur déplacement. Donc voilà, il y a le procès, c'est le 26 octobre prochain. Donc vous voyez, c'est des faits du 13... Non. Enfin, de 2018. Et voilà, donc 5 ans après, on est encore là-dessus. Pour des gens qui ont muré un local de fachos qui font dans l'illégalité, quoi. Voilà. Donc, face aux fachos de tous bords, face à leur barbarie, la solidarité est le ciment de nos luttes. Nous appelons à venir massivement soutenir nos amis maçonnes devant le TGI de Lyon le 26 octobre prochain. Force aux bâtisseurs et bâtisseuses antifascistes. Donc, voilà.
Prendra de leurs nouvelles, alors.
Ouais. Voilà, bon, on se met un tout petit peu de musique où on vous dit au revoir tranquillement et puis comme ça on se met le générique. Hein.
Ouais, on peut faire ça.
Voilà.
Allez. Et ben à la semaine prochaine, 11h, prenez soin de vous et écoutez la prime 92.4.
Ouais. Allez,
salut.
À la semaine prochaine.